Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel avec vous cette semaine pour parler. En fait, j'ai longtemps hésité à savoir si on allait parler ensemble de l'anxiété, de la peur, de la dépression. Et j'ai dit non. Il y a beaucoup plus grand que ça. Parlons donc des émotions avec un grand « et ». Parce qu'on en a tous, mais qu'on ne sait pas toujours quoi en faire. Parce qu'on en a tous, mais on ne les comprend pas toujours. Parce qu'on en a tous, mais on a parfois l'impression qu'il ne faut pas en avoir. C'est d'ailleurs une des raisons principales pourquoi je veux qu'on parle d'émotions ensemble cette semaine dans une société où on préconise énormément l'intellect, hein? La raison, la logique. Bye-bye émotion, bye-bye intuition, hein? Utilise ta tête. Parce qu'on est dans une société où on associe encore trop les émotions à la femme, à la sensiblerie. Quand on se pète le petit orteil sur le bord du lit, on a mal à l'orteil. Bon, oui, certains vont réagir plus que d'autres, certains, bon, la réaction peut différer, mais n'en demeure pas moins que l'expérience reste approximativement la même pour tout le monde. Alors que pour les émotions, c'est plus subjectif, c'est moins clair, on se permet de légitimiser nos propres émotions et celles des autres, on se permet de les juger, de les critiquer, de les écouter ou pas. La douleur physique qu'on a eue quand on s'est pété le petit orteil, elle, on ne la remet jamais en question. L'aspect intangible et la source parfois peu claire d'une émotion nous mènent à la questionner et à penser qu'on a le droit de décider si oui ou non on peut ressentir ou quelqu'un peut ressentir ce qu'il ressent. Et je pense qu'on doit remettre les choses à la bonne place. C'est quoi la place des émotions dans nos vies? Quelle place on leur accorde et quelle place on pourrait leur donner? Quelles sont les émotions qui sont plus difficiles à tolérer, donc chez nous-mêmes, en nous, chez les autres aussi? Puis pour quelle raison? Quel impact ça a de ne pas se permettre l'expression de certaines émotions qu'on considère déplacées, trop lourdes ou non socialement acceptables? On en parle aujourd'hui avec un érudit du monde des émotions, le psychologue Stéphane Bensoussan. Bienvenue à Emmanuel avec un M et deux L.
Emotion.
Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. En anglais, c'est vraiment facile à comprendre. Hein? E-motion. E pour énergie, motion pour mouvement. Puis j'en parle souvent de ce monde d'énergie-là dans lequel on évolue. Hein? J'en parlais entre autres avec l'argent qui était une énergie en soi. Les émotions sont subtiles, c'est non tangible à prime abord, mais tellement, tellement important. Et on ne met pas les émotions où elles devraient aller, soit des messagères. Pour les hommes, pour les femmes, les jeunes, les moins jeunes, pour tout le monde. Parce qu'on ne met pas les émotions où elles devraient aller, une boussole qui nous guide pour mieux nous comprendre. Je répète, les émotions sont une boussole qui nous guide pour mieux nous comprendre. Hein? C'est des signaux qui nous permettent de s'entendre sur ce qu'on ressent vraiment. Combien de fois ça vous est arrivé de vous sentir pas bien devant une situation qui était comme inoffensive ou objectivement, là, tout semblait parfait et positif, que ce soit une offre d'emploi, une possibilité de relation, mais il y avait quelque chose en dedans qui disait non. Puis ça paraît, il n'y avait absolument aucune raison apparente pour laquelle ça disait non, mais en dedans, il y avait un clignotant qui indique que c'est peut-être pas aussi parfait que ça semblait être. Ça nous est tous déjà arrivé. Et on est habitué d'entendre « Laisse-toi pas guider par tes émotions. » Et si c'est justement ce qu'il fallait faire? Je suis une femme, pour ceux qui en doutaient encore, je le confirme ici aujourd'hui. Je suis une femme et on dit souvent que la balance, c'est ce qui doit être atteint dans la vie. Hein. Le but ultime de tout être est de trouver balance et équilibre en toutes choses, comme le yin et le yang, le féminin et le masculin en soi. Le chaud, le froid, la lumière, la noirceur, les émotions et le mental ou le rationnel. C'est tous des pôles d'un tout cohérent et complet. C'est complémentaire. Point. Ni meilleur, ni moins bon l'un que l'autre. On peut avoir une tendance naturelle vers l'un ou l'autre. On parle souvent du cerveau gauche ou du cerveau droit d'un individu qui est plus développé que l'autre hémisphère, simplement pour dire que cette personne-là est plus intellectuelle ou plus artiste, plus rationnelle ou sensible. On peut préférer travailler avec l'un ou l'autre. On peut avoir une plus grande force dans l'un ou dans l'autre. Mais comme l'été et l'hiver, il ne nous est jamais venu à l'idée de les hiérarchiser. On les voit dans un cycle de saisons, chacun à leur place. Point. On va faire un petit tour des émotions primaires. Dans le monde psychologique, on entend souvent parler des émotions, des grandes catégories d'émotions. C'est sûr qu'il y a toute une... Il y a une panoplie de sous-émotions, hein? L'ennui. L'ennui est une émotion en soi, mais on ne dirait pas que c'est une des grandes catégories. Il m'est venu à l'idée de les démystifier un petit peu rapidement, en commençant par la joie. La joie, c'est la base de l'être. C'est l'état recherché naturellement. Et en tant qu'individu, j'en parle souvent, tous nos gestes. Toutes nos décisions, nos pensées, nos actions sont tournées vers un seul but. Être bien, être joyeux, être heureux. C'est un état de base et par état de base, j'entends l'émotion qui est présente à la base. Tu sais, quand l'enfant naît, là, quand on arrive comme une page blanche, avant toutes les expériences, les traumatismes, les apprentissages, les conditionnements, c'est la joie qui nous caractérise. On peut dire que c'est un peu l'enfant en nous. La tristesse, j'écoutais une capsule qui s'appelle « Tout le monde s'en fout » sur Facebook et je vous invite à aller regarder les vidéos de cet homme-là qui est tellement intéressant. Et lui parlait de la tristesse comme une façon de réagir à quelque chose que l'on sait terminer consciemment ou non. Comme si un deuil se fait, même si on ne s'en rend pas compte. Hein, la perte d'un être, on peut penser à prime abord, oui, mais la perte d'une relation, la perte d'une opportunité, la perte d'un objectif qui n'est pas atteint. La tristesse, c'est notre réaction à ce qui est terminé. C'est l'absence de joie, oui, ça peut mener à la dépression aussi. Mais la dépression, pour moi, va plus loin. La dépression s'installe quand non seulement la tristesse est grande et longue, donc elle perdure, mais également ça sous-tend une idée de manque de contrôle sur sa vie, de manque de pouvoir sur sa vie. La dépression, c'est souvent l'écho d'un manque de possibilités, d'un manque de moyens, d'un manque d'idées aussi, de comment se sortir d'une situation qui nous tue par en dedans. L'idée que la dépression provient de la tristesse, c'est une chose, mais la tristesse se transforme en dépression quand on se sent impuissant. C'est aussi de la colère retournée contre nous. On réagit, notre corps, notre être au complet nous parle à ce moment-là. La peur. La peur. On va parler de la peur devant une menace. Hein? Mais est-ce que c'est fondé toujours avoir peur? L'anxiété, c'est la façon dont on ressent la peur le plus souvent. Notre corps, par l'angoisse, par l'anxiété, nous dit qu'il y a peur de quelque chose et pas nécessairement le fait d'être devant un camion sur l'autoroute. Là. Ça, c'est comme une peur très, très claire où notre intégrité physique, notre survie est mise en danger. Combien de fois vous vous sentez anxieux? Vous avez la boule dans l'estomac, comme on dit. Et le pourquoi est plus souvent qu'autrement flou. On verra un petit peu plus tard comment on fait pour détecter ce qui nous rend anxieux, ce de quoi on a peur sans le savoir. Mais il n'en demeure pas moins que la peur régit nos vies beaucoup plus qu'on veut se l'avouer. On a peur de l'échec, mais on a aussi peur de réussir. On a peur d'être en relation, mais on a peur aussi d'être seul. On a peur d'agir par peur d'agir de manière incorrecte, de prendre la mauvaise décision, par exemple. On a peur aussi de ne pas agir puis manquer une opportunité et ça pourrait continuer indéfiniment. La peur paralyse. Et plus souvent qu'autrement, ben, on a peur d'avoir peur. Pensons-y. Et la colère. Quand on est en colère, je l'ai gardé à la fin, c'est pas pour rien. Quand on est en colère, c'est qu'on ressent un non-respect de ses valeurs, de sa personne. Nos limites sont dépassées, sont bafouées. Et là, on devient en colère. C'est notre réaction à ces limites dépassées-là. Et oui, je parle de la colère à la fin de l'énumération des émotions primaires parce qu'elle a une place particulière, je pense, dans le spectre des émotions, du moins aujourd'hui dans notre société actuelle, et je m'explique. Certaines émotions sont considérées comme non acceptables. On a malheureusement intégré, appris, cru que certaines émotions n'étaient pas OK. Et j'entends ici, oui, vous me voyez venir, la colère. Je pense que c'est l'émotion la moins tolérée en soi et chez les autres. Vous n'êtes pas tanné de vous sentir coupable, de ressentir de la colère? Vous n'êtes pas tanné de vous faire dire que vous réagissez trop fort, trop vite à une situation, que vous avez un peu exagéré, que vous dramatisez. Vous n'êtes pas tanné de ne pas vous donner le droit de ressentir ce que vous ressentez réellement en pensant que ce n'est pas correct ou que d'autres pourraient vous juger ou encore pire, que d'autres pourraient mieux réagir que vous autres. De ne pas tolérer ses propres émotions, pas les écouter, ça finit par créer, ça peut créer des maux physiques. On l'a entendu souvent, le mal a dit, la maladie, la psychosomatisation. On en parlait d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission. Mais je vous ai demandé d'ailleurs sur les réseaux sociaux quelles étaient les émotions que vous aviez le plus de difficultés à tolérer chez vous-même. Bien, sachez que ce que vous avez de la difficulté à tolérer chez vous-même, vous le réprimez. Et c'est trop souvent le cas de la colère. Nombre de fois où on se fâche pour des petits riens pendant un bout, tu sais, pendant toute la journée, vous êtes fâché, vous êtes irrité pour des raisons qui sont minimes, puis vous dites, voyons, je suis donc bien irritable. Qu'est-ce qui nous fâche vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on ne s'est pas donné le droit de réagir sur le moment présent qui sort encore une fois en petites poignées partout? Et on sent des fois que les autres, au sens large, ne tolère pas certaines émotions en nous. Et ça commence dès l'enfance. Voyons, n'aie pas peur hein, quand on était jeune. Voyons, on réagit pas comme ça. Voyons, t'as pas mal pour vrai. Mais vous êtes cet autre-là pour quelqu'un. Et ça, c'est le bout moins évident à s'avouer. Quelles émotions vous tolérez pas chez les autres? Parce qu'en tolérant pas les émotions des autres, on leur envoie un signal que ce qu'ils ressentent, c'est mal. Et donc, le même phénomène se produit. On doit se rappeler que ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu, on peut le faire aux autres malgré toute la bonne volonté du monde. Et c'est pas qu'on soit méchant ou des mauvaises personnes, mais comment on peut offrir à quelqu'un ce qu'on s'offre pas à soi-même? Souvent, la peur de perdre le contrôle de soi avec les émotions, c'est la base du désir de les cacher, de les enterrer, de pas les utiliser comme elles se doivent. Et rappelons-nous toujours que pour maîtriser quelque chose, on doit le voir. Ce qui est caché dans l'ombre s'amuse comme il veut. Et c'est contre-productif, donc, de pas voir ce qui est caché. Parce qu'en ayant l'impression d'avoir plus de contrôle, ben c'est complètement le contraire qui se passe. La maîtrise passe par la conscience. Pensons-y.
Sans un frein, des sentiments pour demain, des sentiments dans la tripe, des sentiments qui nous excitent, sentiments qui nous agitent, des sentiments qui s'extirpent, sentiments qui nous gagnent, des sentiments qui nous soignent, sentiments qui transpirent, sentiments qui nous inspirent, sentiments où rien ne s'efface, sentiments sans attache, des sentiments à page, des sentiments sans relâche, des sentiments qui nous parlent, des sentiments qui nous alarment, des sentiments qui nous tuent. Quand d'amour et de plaisir on n'en peut plus, mes sentiments sont pour toi, mes sentiments valent pour toi. Des sentiments tous ensemble, des sentiments pour tout prendre, des sentiments qu'on attend, des sentiments dans le sang, des sentiments sans un frein, des sentiments pour demain, sentiments dans la tripe qui nous excite, qui nous agite, qui s'extirpe, qui nous gagne, qui nous soigne, qui transpire, nous inspire, rien ne s'efface sans attache. Apache sans relâche, qui nous parle, nous alarme, qui nous tue. Tant d'amour et de plaisir, on n'en peut plus. Mes sentiments sont pour toi. Mes sentiments valent pour toi.
Il est psychologue orienté vers la psychologie de la santé, donc plus spécifiquement en psycho-oncologie. Il pratique depuis plus de 25 ans maintenant, en mélangeant plusieurs approches qui fait de sa pratique une pratique qui est éclectique. Il combine intuition et connaissance et il s'adresse à tous les pans de la personne, tant psychologique, émotionnel, physique et sur le plan de l'esprit et de la conscience. C'est un psychologue holistique dans tous les sens du terme. On l'a avec nous pour parler des émotions aujourd'hui, monsieur Stéphane Bensoussan, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Comment allez-vous?
Excellent, merci.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, c'est vraiment, vraiment intéressant, surtout dans votre point de vue et votre approche. Je vais vous poser une question plutôt large en commençant. Tout d'abord, pour vous, les émotions, c'est quoi?
Bonne question. Alors, il y a plusieurs façons de regarder les émotions. C'est sûr qu'en thérapie cognitive, les psychologues définissent les émotions comme quelque chose qu'on ressent lorsque nous jugeons ou interprétons un événement ou une situation en quelque chose. Donc, si je dis, par exemple, il fait beau aujourd'hui, ben, je vais ressentir de la joie. Si je dis, il fait sombre ou c'est un temps de X, là, je vais ressentir plus de la peine, de la frustration. Donc, les émotions sont basées en partie sur nos émotions, sur nos pensées plutôt. Mm-hmm. Donc, comment on interprète une situation va définir comment une émotion est. Donc, ça, c'est une façon de l'interpréter. D'une autre façon, une émotion, c'est comme un genre d'énergie qui passe à l'intérieur de nous, qui passe à travers notre esprit, et ça passe et ça vient. Donc, si j'ai une montée de colère, je vais ressentir la colère, puis je vais la laisser aller. Donc, c'est comme une genre d'énergie qui passe. Une émotion, c'est un genre d'énergie en mouvement, on dit.
Oui, en anglais, on dit « emotion », exactement.
C'est ça, « energy in motion » ou « énergie en mouvement ». Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on regarde les émotions, nous autres. Alors, pour nous, les émotions, c'est quelque chose qui est normal, qui est sain, qui est tout à fait humain, naturel, mais c'est juste une question de comment est-ce qu'on juge l'émotion, comment est-ce qu'on gère une émotion. Est-ce qu'on la laisse prendre toute la place? Est-ce qu'elle nous consomme? Est-ce qu'on reste accroché à cette émotion pendant des heures et des années, des jours, des fois? Ou est-ce qu'on est capable de passer à travers de façon plus fort et plus confiant et mettre de côté les émotions? Il ne faut pas que les émotions prennent trop de place dans notre vie.
Mmh. Est-ce que vous sauriez expliquer ce qui fait que certaines personnes ou même chez une même personne, à certaines occasions, on a davantage tendance à se laisser submerger ou à s'accrocher à des émotions? Pourquoi on fait ça?
Bien, il y en a beaucoup de facteurs. Premièrement, c'est notre habitude, hein? Donc, mmh. on a une habitude de penser, une façon de penser. Et on appelle ça des schèmes de pensée. Alors, mm-hmm. notre schéma de pensée fait en sorte qu'on est accroché à certaines façons de réfléchir, certaines façons de procéder. Alors, lorsqu'on a tendance à vivre certaines émotions, ben on a tendance à les revivre. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est comment est-ce que notre société perçoit quelque chose. Alors, si on a appris en regardant des modèles, nos parents, par exemple, ou des autres gens dans notre vie, agir d'une certaine façon, puis avoir gain de cause, avoir de l'attention, mais on est comme validé dans notre expression de vivre nos émotions. Donc, si notre mère était très dramatique, on a tendance à être dramatique peut-être comme elle, ou justement le contraire. Elle était trop dramatique, ça m'a trop dérangé, fait que là, je vais être vraiment très sobre et très calme à l'intérieur.
Mais ce que vous nommez là est très relié également à la réactivité, qu'elle soit par le mimétisme, donc faire la même chose, ou complètement aller à l'inverse, on réagit quand même à quelque chose. Et les exemples que vous avez nommés dans des moments où on ne maîtrise plus nos émotions et où elles nous contrôlent, ça parle aussi de l'inconscient. C'est pas toujours conscient, ça, là.
Ça part de l'inconscient. C'est sûr que tout ce qui nous amène à ressentir des émotions, ça part de l'inconscient, effectivement. Donc, c'est nos expériences antérieures, c'est notre vécu, c'est notre chaîne de pensée, comme j'ai dit tantôt, qui fait en sorte que nous développons cette façon de réagir à un événement en question.
Mm-hmm.
Alors, en thérapie, ce qu'on cherche, c'est de donner des outils pour qu'on puisse reconnaître comment est-ce que j'ai tendance à réagir face à une situation telle, et puis de pouvoir prendre conscience de ça en premier, puis après ça, de dire, est-ce que je veux continuer de penser comme ça et d'agir comme ça, ou est-ce que je peux changer mon comportement?
Donc, est-ce que ça me sert réellement actuellement de me sentir comme ça? C'est un peu ça, parce que on parle de tout un pan d'émotions, mais on parle aussi qu'il y a des troubles émotionnels, et on en parlera un petit peu plus tard, mais moi, j'ai pour mon dire qu'on est dans une société qui est très axée sur l'intellect, sur le mental, sur l'analyse. Mais vous avez un autre point de vue. Vous dites que les émotions, vous êtes d'accord un petit peu avec ça dans la mesure où elles ne doivent pas trop prendre de place. Est-ce que je me trompe?
Non. Dans la littérature, maintenant, on commence à regarder les problèmes reliés à la surréactivité émotionnelle.
Mm-hmm.
Qu'on vit quelque chose et puis que c'est normal et que, comme je dis, c'est sain de vivre l'émotion qui vient avec la situation en question,
mm-hmm.
mais qu'on est capable assez rapidement de passer par-dessus, de revenir à une situation ou une émotion neutre ou de revenir à un calme intérieur. Si l'émotion prend trop de place dans notre vie, ça devient problématique.
Mm-hmm.
Parce que ça nous empêche de réfléchir, ça nous empêche de fonctionner des fois de façon raisonnable.
Et optimale.
Et optimale, effectivement. Donc, on a besoin de vivre nos émotions, oui, mais il faut qu'ils prennent ils ont une place et un temps. Il ne faut pas leur donner trop d'attention. Et dans notre société, il y a des gens qui sont trop intellectuels et trop dans leur tête, puis ils n'ont pas d'émotions, ils ne se donnent pas la chance de vivre leurs sentiments. Mais là, ils rentrent à la maison, puis il y a des choses qui se passent, puis ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont pas de conscience au niveau émotionnel. Et ça, c'est un extrême. Puis il y a d'autres extrêmes où les gens sont surdramatiques et ils sont surémotifs et l'émotion prend, les dirige. Alors, on veut quand même un juste milieu à quelque part.
Bien, tout à fait. Dans la recherche de l'équilibre des deux hémisphères, nécessairement, c'est important de savoir comment mieux se gérer. Là, c'est très, très important dans vos propos. Et on va faire une courte pause et on va en parler un petit peu plus tard. Mais ce que vous dites, c'est de trouver une balance. Vous avez nommé également l'idée que certaines personnes n'ont pas conscience de ce qu'ils vivent. Et il y a aussi toute la notion de maîtriser ses émotions, mais également de ne pas se laisser contrôler par eux. Et vous avez nommé également un mot très, très important qui est reconnaître, et je veux revenir absolument là-dessus avec vous, M. Bensoussan, dans quelques instants.
Excellent.
Vous écoutez toujours Emmanuel avec un M et deux L. On parle toujours du grand monde des émotions avec notre invité, Stéphane Bensoussan. On est toujours avec M. Bensoussan, psychologue, plus spécifiquement psycho-oncologue. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, M. Bensoussan?
Oui, tout à fait.
Super. Donc, justement, on a parlé du fait que certaines personnes ne se laissent pas droit de ressentir certaines émotions. Est-ce que vous pourriez me nommer des émotions qui, selon vous, sont moins acceptées et moins acceptables en société, que ce soit dans les relations avec les autres ou en nous-mêmes?
Bien, il y en a plusieurs. Celui qui est le plus difficile, l'émotion qui est la plus difficile pour l'être humain, c'est vraiment l'impuissance.
Mm-hmm.
Dans notre société, on est conditionné à trouver des solutions. Quand on a un problème, on va chercher à découvrir c'est quoi la cause, puis on va solutionner le problème. Puis une fois qu'on solutionne le problème, à ce moment-là, l'émotion part. Mais quand on vit de l'impuissance dans une situation des fois chronique, par exemple une maladie, mm-hmm. puis on fait ce qu'on peut avec le côté médical, mais on peut pas faire grand-chose de plus, ou lorsqu'on vit une situation dans notre vie qui est difficile, puis on ne peut pas changer nécessairement le courant, on ne peut pas régler le problème, on va nécessairement vivre des moments d'impuissance. Et puis, on a tendance à avoir de la difficulté avec cette émotion dans notre société. Et puis, l'idée, c'est comment est-ce qu'on l'exprime? On l'exprime de façon différente. Alors, il y a des gens qui vont se choquer, qui vont être en colère, qui vont être frustrés, qui vont être des fois agressifs ou violents même. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de rentrer en contact avec ce sentiment d'impuissance.
Mm-hmm.
Alors ça, c'est pour moi ce que je vois de façon clinique, c'est ce que je vois le plus souvent, les gens qui réagissent en colère, c'est souvent parce qu'ils cachent des autres émotions à l'intérieur d'eux. Des fois, c'est de la tristesse, hein, au niveau social, au niveau travail, professionnel. D'habitude, on n'est pas vraiment soutenu lorsqu'on ressent une émotion de tristesse.
Mm-hmm.
Alors, on la cache.
Mm-hmm.
C'est pas très public. Il y a de la honte également. Il y a des émotions qui sont pas très sociables. Donc, on fait semblant, ou on agit d'une façon, ou on est colérique, ou on feigne qu'on est heureux, par exemple. Alors, tout ça, c'est des émotions qu'on présente de façon publique, mais qui cachent des fois des sentiments plus profonds.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et à la maison, vous devez... vous reconnaître ou reconnaître quelqu'un autour de vous. On a tous eu ces moments où la vraie émotion n'était pas dans notre ressenti transmettable, disons-le, ou même discutable, à discuter ou à communiquer avec les autres.
Oui.
De refouler ces émotions-là ou même de ne pas les reconnaître, ça a des conséquences sur l'individu.
C'est sûr, parce que ces émotions ne sont pas gérées. Hein. Quand on ne gère pas nos émotions, elles restent à l'intérieur de nous, elles restent dans notre inconscient. Et une émotion qui n'est pas résolue peut revenir plus tard de façon différente. Des fois, ça va revenir encore de façon émotive. Des fois, ça va sortir en mal de tête ou en maux de ventre ou maux de dos. Ça peut être quelque chose de physique comme ça. Ça peut avoir des symptômes plus agressifs ou plus difficiles plus tard au point de vue physique ou physiologique. Mais ça peut sortir aussi d'une autre façon. J'ai de la peur, puis à un moment donné, j'explose. Ça ressort en colère à un moment donné. Donc, encore une fois, c'est une question d'émotion non gérée. Alors, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Toutes les émotions, c'est une forme d'énergie, comme j'ai dit. Puis c'est neutre. Une émotion est neutre. Elle sert à quelque chose, une émotion. Elle a un pouvoir, une fonction.
À quoi elle sert?
À nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui dérange.
Mm-hmm. Hein?
Par exemple, si je suis en colère parce que je viens d'avoir une contravention, ben je me sens frustrée, je me sens qu'il y a une injustice quelque part avec ce sentiment d'injustice. Je vais peut-être aller combattre, je vais peut-être aller chercher de l'information, je vais peut-être utiliser cette énergie pour changer quelque chose qui est problématique pour moi.
Mes valeurs sont touchées, c'est ce que je nommais en début d'émission. Hein? Il y a l'espèce de... d'avoir le sentiment que nos limites sont franchies et non respectées aussi, probablement dans la colère qui est présente.
Exactement. Alors, les émotions ont une fonction. Une fois qu'on comprend la fonction, puis on lui donne raison à quelque part, ou on l'explore, à ce moment-là, notre émotion a servi son utilité, puis qui nous quitte. Mais lorsque je me dis « j'ai pas le droit de ressentir ça, j'ai pas le droit d'exprimer ce sentiment », ben je refoule ce sentiment à l'intérieur de moi, puis ça va revenir me chercher plus tard. Des fois dans le rêve, dans les cauchemars, peut-être que je vais mal dormir, peut-être que je vais avoir des réactions agressives avec les gens autour de moi plus tard. Donc ça va finir par sortir d'une façon ou d'une autre.
Mais tout à fait, mais vous avez parlé également du corps. Vous vous êtes intéressé à la psycho-oncologie, donc au cancer, qui est un grand mot actuellement dans nos sociétés.
Oui.
Et je veux nommer la psychosomatisation également. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la relation entre les émotions et le corps?
C'est un gros sujet.
Oui. Oh, il nous reste 3 minutes. Mais je vous écoute parce que vous êtes vraiment un expert dans le domaine.
Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs études nouvelles, quand même récentes dans les 20 dernières années, dans le domaine de la psycho-oncologie, qui démontrent qu'il y a quand même un lien avec les émotions et la maladie, la progression de la maladie. Il n'y a pas de recherche qui va dire qu'une émotion va causer une maladie. Ça, c'est important à comprendre. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Cependant, lorsqu'on a on est atteint d'une maladie comme le cancer, si on parlait de cancer, comment on se sent à l'intérieur de nous va faire en sorte de nous aider à passer à travers des émotions, à travers la maladie plus facilement ou plus difficilement. Donc, si je suis, par exemple, abattu par rapport au diagnostic, puis je sens que si ça sert à rien de combattre, puis j'ai pas d'espoir, puis j'arrête de combattre, bien, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la façon dont mon corps va progresser au niveau des traitements, au niveau de la chimio, au niveau de la chirurgie. Je vais récupérer plus lentement, plus difficilement, je risque d'avoir plus de complications, je risque de moins prendre les médicaments, d'être moins facilement capable d'endurer ces traitements. Alors, on a toujours besoin d'avoir un espoir, un pouvoir sur nos sentiments et de garder un espoir quelque part dans notre corps. Alors, même si les choses sont assez négatives, on a tendance à voir les choses noires, la situation est difficile, on a besoin de ressentir l'émotion, mais de retrouver notre espoir. Alors, on sait que les gens qui démontrent des signes d'espoir, des signes de résilience émotive, ont des meilleures chances de recouvrir par rapport à la maladie et subissent un traitement et réagissent plus positivement à un traitement. Alors, vous allez parler avec un oncologue, tous les oncologues vont dire, on préfère un patient qui est positif, qui a de l'espoir, qu'un patient qui est défaitiste et négatif et critique. Ils vont vous dire vraiment qu'ils voient une différence au niveau du prognostic, au niveau de la récupération. Alors, c'est sûr que c'est une maladie qui peut être très difficile, qui va nous atteindre au point de vue physique, évidemment, psychique et social et environnemental, et ça va complètement déranger notre vie, ça c'est évident.
Tout à fait. Puis vous parlez d'être positif, mais j'allais justement nommer le rire également comme les effets thérapeutiques de la joie et de rire ont été quand même démontrés à plusieurs reprises. Et non seulement ça, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, Dr. Bensoussan, mais je veux simplement nommer que vous avez parlé de reconnaître les émotions. Je veux également nommer que en thérapie et en clinique, vous utilisez des méthodes comme la relaxation, l'imagerie, l'hypnose et la méditation pleine conscience. Et je vais continuer au cours de cette émission à vous donner aussi quelques trucs pour mieux pallier aux difficiles émotions qui peuvent parfois prendre le dessus. Et je veux rappeler aux auditeurs que votre livre « Mieux vivre avec le cancer » n'est plus disponible en édition, mais on peut l'avoir par contre sur Internet, on peut le trouver. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'était très intéressant.
Merci beaucoup de l'invitation.
Au revoir.
Bonne journée.
Tu diras, tu diras que c'est l'instinct qui t'a mené jusqu'ici. L'intuition d'un sentiment qui ne revient trop pas. Tu diras, tu diras que tous tes sens piochaient, tu m'aimes beau, ta même élan poussé par une force étrange. Ce sera ton camp de boss. Ce sera ton camp de boss.
tu diras, tu diras que c'est l'instinct qui t'a mené jusqu'ici. L'imprudence comme elle se doit de temps en temps. Ce sera ton camp de base. Ce sera ton camp de base.
Avant de parler de comment on peut mieux gérer nos émotions, surtout les émotions difficiles qu'on peut, peut appeler troubles émotionnels, c'est important de rappeler, j'en ai parlé en début d'émission et j'en parle souvent, qu'on vit dans un monde de polarité et non seulement la polarité des émotions et le mental, mais il y a également une polarité qui est connue à travers les émotions, dans les émotions elles-mêmes. Et malgré ce qu'on dise dans le monde psychologique par rapport aux émotions de base, il reste que sur la Terre, tout émerge de l'amour. Parce qu'on n'a pas parlé de l'amour, mais on en parlera bientôt. Il paraît que février, c'est un bon mois pour ça. Tout est basé sur l'amour et dans la vie, on agit dans l'amour ou dans la peur. Toute autre émotion ou sous-émotion nous font pencher vers l'un ou l'autre. Et puis c'est facile, après ma barre, de penser qu'on sait bien catégoriser notre émotion. T'sais, la joie, ben là, la joie, je suis dans l'amour. T'sais. Puis là, ah, l'inquiétude, ben je vis dans la peur. T'sais. OK, oui, c'est assez proche. On va se le dire comme ça, mais prenons l'exemple d'une mère inquiète pour son enfant qui joue dans la rue. Est-ce qu'elle ne peut pas avoir peur par amour? Pensons-y. Quand vous ressentez quelque chose, demandez-vous si vous ressentez de l'amour ou de la peur. Est-ce que vous agissez dans l'amour ou dans la peur? Vous voulez une relation parce que vous aimez être en relation ou parce que vous avez peur d'être seul? Juste un petit exemple pour appuyer. Ça aide souvent à bien se positionner. On a aussi parlé de la psychosomatisation, les émotions qui se transmettent dans le corps par des maladies. Et avant d'en arriver à ce que notre corps nous parle aussi fort et aussi douloureusement, on peut essayer de se comprendre avant tout, hein, de prendre le temps, d'arrêter de nier ce qui est en nous, comme on est souvent habitué de le faire, encouragé à le faire, même parce qu'on a appris à le faire dans nos familles, dans nos sociétés, parce que nous-mêmes, on ne tolère pas de ressentir telle ou telle émotion. Avant de comprendre, il faut reconnaître et accepter. J'en parle souvent. Dans l'ordre. Reconnaître, accepter et comprendre. Et je dis souvent que la vie est parsemée de positifs et de négatifs, une autre belle polarité ici. Je dis souvent également qu'on doit ne pas escamoter ces sentiments négatifs-là. En parlant des émotions, c'est quand même extrêmement important. N'en demeure pas moins que quand ça perdure et que ça ne nous sert plus, qu'on a investigué, qu'on a été chercher ce qu'on avait à aller chercher dans ces émotions-là, dans notre compréhension, d'où ça vient, ce que ça nous indique et ce qu'on peut en faire, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire pour s'en sortir. Et, à ce moment-là, je parle entre autres de la dépression. Quand j'ai parlé tout à l'heure, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, plus tôt dans l'émission, j'ai parlé de la dépression comme le reflet d'un sentiment de manque de pouvoir sur sa vie. C'est vraiment la résonance de l'impuissance, c'est de la colère virée contre soi, dans un état d'impuissance totale. Donc, reconnaître qu'on ne va pas bien, cibler ce qui ne nous satisfait pas dans notre vie. Ça vient d'un profond, profond sentiment d'insatisfaction et cibler aussi pourquoi on se sent impuissant face à cette insatisfaction-là. Et retrouver notre pouvoir un pas à la fois en changeant quelque chose aussi infime soit ce changement, et souvent ce changement, comme d'habitude, eh bien, il se passe à l'intérieur de nous. Je suggère qu'on change nos perspectives et nos perceptions. Ramener un peu d'amour de soi dans tout ça pour remplacer tranquillement, mais sûrement, la colère qui est présente par la bienveillance, l'indulgence, la patience et l'espoir. C'est possible. Quand on parle d'anxiété, la respiration. Je répète, la respiration. Et on entend tellement souvent ça, mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Ce serait une question peut-être à se poser pendant notre journée, mais quand on se sent anxieux, arrêtez tout ce que vous faites et respirez profondément juste pour vous ramener ici et maintenant. Ça stabilise l'aspect émotionnel qu'on est en train de vivre. Ça nous permet de mieux réfléchir. Et parlant de stabiliser l'état émotionnel, nommer. Je disais plutôt que l'anxiété, c'est une forme de peur. C'est parfois relié à quelque chose dont on n'a pas conscience. On n'est pas capable de nommer à quoi on réagit. Et moi, je faisais beaucoup d'anxiété à l'école, surtout à l'université. Et quand je ressentais que ça m'envahissait et que je ne savais pas pourquoi, j'étais juste dans un état anxieux généralisé, j'arrêtais tout et je nommais tout ce qui me passait par la tête. Littéralement, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je nommais tout. Nommez tout ce qui est là, tout ce qui est à même de vous créer de l'anxiété, ce que vous ne douteriez même pas, des choses que vous avez à faire, des choses à quoi vous avez pensé, des choses que vous avez fait, des relations que vous entretenez. Pensez à tout, nommez-les. Quand vous allez avoir trouvé la bonne chose, l'anxiété va se dissiper. Vous avez une structure, en fait, moi aussi je l'ai, on a tous une structure dans le cerveau qui s'appelle le cortex angulaire antérieur. Grand mot. On dira, son travail, lui, c'est... de diminuer son activité quand on nomme. Et c'est pour ça, entre autres, que la psychothérapie est si aidante. Parce qu'en parlant et en seulement verbalisant, parler est un grand outil thérapeutique pour ça. On vient de comprendre pourquoi. Donc, si c'est difficile de comprendre une anxiété sous-jacente, nommez, écrivez. Quand l'émotion diminue, vous l'avez trouvée. Se questionner aussi sur l'utilité de l'anxiété, parce que oui, l'anxiété, c'est utile. On se rappelle que tout ce qu'on fait, pense, ressent, c'est toujours parce qu'on pense que c'est la meilleure chose à faire pour nous. On pense que c'est ce qui va nous procurer du bien-être. On veut être bien. Donc, en s'inquiétant, on le fait parce qu'on pense fondamentalement que c'est utile de le faire. Quand on comprend qu'on s'inquiète parce qu'on pense que c'est bon pour nous, on peut maintenant se poser la question, qu'est-ce que je crois être en train de faire de bon pour moi en m'inquiétant? Vous savez, s'inquiéter, ça nous donne l'impression d'être en recherche de solutions. S'inquiéter, ça nous donne l'impression de s'occuper du problème. S'inquiéter, ça nous donne l'impression de mieux nous préparer à un scénario catastrophique qui peut arriver. Donc, en ayant l'impression de chercher une solution, d'adresser le problème, de mieux se préparer, c'est normal de continuer à le faire. Je veux dire, qui arrêterait, sincèrement. Mais on sait tous que c'est pas le cas. Malgré qu'on le sache, savoir pourquoi on le fait malgré tout. Donc, trouver l'utilité de l'anxiété dans nos vies peut nous permettre de changer nos méthodes. Et je vais appuyer ce point-là pour n'importe quelle émotion. Validez votre expérience émotionnelle et commencez avec nos enfants très tôt. Continuez, peu importe ce que vous ressentez. Personne n'a droit de juger ou de décider ce que vous ressentez. Et toute émotion indique quelque chose de valide qui existe et qui est légitime et qui vous appartient. Et de ne pas le reconnaître, c'est simplement le mettre ailleurs et ça ne disparaît pas, et ça, on le sait. Validez votre expérience émotionnelle. Essayez de voir avec quoi vous êtes à l'aise. Essayez de voir avec quoi vous êtes moins à l'aise. Voyez ce que vous tolérez chez vous, chez les autres, et ce que vous ne tolérez pas chez vous et chez les autres. Maintenant qu'on comprend ce que ça implique, on va peut-être pouvoir s'offrir l'opportunité de mieux ressentir. Pensons-y. C'est déjà tout pour cette semaine. J'aurais pu faire un tome 2, un tome 3. J'aurais pu faire, je pense, une saison complète sur les émotions. Mais grosso modo, le message que je voulais passer est passé. Les émotions, c'est le langage de l'âme. Appelez ça intuition, appelez ça instinct. Ça a beaucoup à nous apprendre et à nous apporter sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. J'espère que vous saurez leur tenir la main. C'est de bons alliés. Je remercie Anne-Laure Janson à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la régie. Je remercie notre invité Stéphane Bensoussan également d'avoir accepté notre invitation. Et nous, on se parle la semaine prochaine. Bonne semaine.